Bonjour et bienvenue dans le podcast Art Éco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Doriane Etienne sur le podcast Art Éco Vert. Bonjour Doriane.
Bonjour Pauline.
Alors, on va être transparent avec les auditeurs. On réenregistre avec Doriane. On est passé du vous au tu et on va approfondir davantage les sujets. On a eu des problèmes de son et on s'est dit communément que pour le confort des auditeurs, c'était mieux de réenregistrer. Alors, Doriane, comme je te disais, moi, j'ai entendu parler de toi par Aurélia Wolf de la marque Hall, qui m'a dit « il faut absolument que tu rencontres Doriane, il faut absolument que tu regardes les projets qu'il a fait, etc. » Donc, avant d'en dire plus, je voudrais que toi, tu puisses te présenter aux auditeurs, nous raconter ton parcours et comment t'en es arrivé, toi, à utiliser la couleur végétale dans tes œuvres.
Alors, moi, je suis formé en tant que designer d'objets à l'école Boulle. Ça, c'est au niveau du diplôme et de l'école. Après, je me suis en fait formé par moi-même. Je suis parti à Taïwan, dans l'Institut National d'Artisanat, le NTCRI, pour expérimenter des savoir-faire traditionnels taïwanais autour du bois, de la fibre végétale, de la teinture végétale, en fait, de la pierre, du bambou, enfin, plein de choses. Et ça a été vraiment une sorte de révélation pour moi, et ce qui a fait que après ces 6 mois de résidence, je l'ai lancé en fait mon studio de design, qui est basé à Besançon en ce moment, et qui est vraiment tourné vers une approche qui est, en fait, je me définis en tant que designer voyageur, c'est-à-dire que j'ai une approche qui est tournée vers le territoire, les différents territoires où je vais pouvoir m'inscrire, qu'ils soient proches ou lointains en fait. Et je vais aller sur place, m'immerger dans la culture, essayer de comprendre en fait les spécificités du territoire, comprendre les enjeux, les matériaux, les techniques en présence, les différents personnes aussi créatives qui travaillent sur place, et de tout ça réussir à créer de la nouveauté avec aussi un autre regard, parce que du coup, comme je suis étranger dans ce territoire-ci, je vais me rendre compte des détails devenus insignifiants pour les locaux et du coup avoir une autre approche créative, pouvoir créer de nouvelles choses. Donc cette dimension du territoire est très importante dans ce que je fais, avec aussi une fibre écologique dans tous les projets que je mène. Donc voilà, pour résumer ma pratique actuelle, c'est à peu près ces deux points-là.
D'accord. Et alors du coup, pour rentrer dans le concret, tu nous as... donc l'œuvre par laquelle je t'ai connue, c'est l'œuvre paysage, le temps qui passe, on va dire, qu'on peut voir à l'époque, je pouvais le voir sur le site d'Aurélia Wolf, justement. Et en fait, ça m'a intriguée et interpellée, parce que je me suis dit, en fait, sans savoir, j'ai compris ce que c'était. Et après, je voyais quelque chose d'aérien, quelque chose qui ressemblait à comme une vue d'en haut. Par contre, je ne savais pas que c'était avec de la couleur végétale, etc. Enfin bref, j'ai trouvé ça hyper original comme approche. Et j'aimerais bien que tu nous présentes comment tu as construit cette idée de faire ce projet paysage et que tu nous racontes tout ce qui se passe autour de ça, parce que c'est un travail de fourmi, un travail de collectif hyper intéressant et engagé.
Alors tout à fait, en fait, paysage, c'est un projet que je mène depuis début 2022. Un projet à la base qui est tiré d'un autre projet que j'ai pu réaliser, qui s'appelait Pays Rêvé et qui proposait pendant le confinement, en fait, c'est un projet que j'ai réalisé pendant ce temps-là, qui proposait des objets décoratifs d'intérieur, donc des tapis, des appliques lumineuses, du mobilier qui représentait et qui était inspiré de vues satellites de territoires lointains, dans l'idée d'avoir chez soi des objets qui permettaient de s'évader, qui permettaient de voyager, alors qu'on était tous cloîtrés chez nous. Donc ce projet a été repenser, re-questionner pour répondre à un appel du ministère de la Culture qui s'appelle Monde Nouveau, où le projet a été lauréat, et où j'ai vraiment tourné sur les, donc là, plus pays rêvé, mais paysages, vers quelque chose de plus local, en travaillant sur place, quelque chose aussi, du coup, de participatif. Donc tout ça, je vais pouvoir le développer un peu plus tard, mais effectivement, cette genèse s'est faite lors du confinement et puis a été remaniée. Donc ça, c'est plutôt la... Ce qui est plutôt intéressant avec ce projet, c'est qu'on a trois étapes différentes et trois secteurs en fait artistiques différents. Au niveau de la méthodologie du projet, faire que ce soit cohérent, que tout fonctionne en fait, tout simplement avec autant d'acteurs qui sont impliqués, ça c'est vraiment la partie design, on va dire, de conception, de cohérence d'un projet. Par contre, en termes de réalisation, on est vraiment plus sur de l'artisanat, on est sur de la tapisserie, du touffage, de la teinture végétale. Et au niveau de la finalité, par contre, on est plutôt sur une œuvre d'art. Donc, on vient mélanger en fait ces trois secteurs-là, ces trois métiers, on va dire. Puis, et ça fait un tout justement de ce projet qui est en fait une collection qui est amenée à se développer petit à petit et qui est surtout amenée à se déployer sous la forme d'un protocole qui est reproductible, mais qui est à chaque fois spécifique, en fait, qui est à chaque fois unique, suivant les territoires où je l'emmène.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment, c'est de l'art engagé et très ancré local, très unique par le territoire que tu viens cibler. Et donc, ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est, on va revenir après sur la technique, comme on se l'était dit, on va détailler exactement tous les process. Ce qui fait le lien avec le podcast, c'est que en fait, j'ai compris que tu utilisais, que tu t'étais entouré et que tu utilisais des couleurs végétales locales pour teindre les laines locales, pour faire du tufting dont je ne connaissais pas la méthode et tu nous l'expliqueras tout à l'heure, pour réaliser cette œuvre engagée et venir apporter aux personnes qui viennent voir tes œuvres un message, mais aussi voilà, un message sur une œuvre, ça peut être collectif. Les matériaux à employer peuvent être locaux, vraiment ancrés dans le territoire. Et tu passes ton message du temps qui passe et de l'évolution des territoires, du changement climatique. Et, enfin, quand même, parce que je pense que ton idée, c'était de faire une tapisserie et 20 ans après, en refaire une autre et voir l'évolution si j'avais bien tout saisi.
Ouais, tout à fait, c'est ça. En fait, pour résumer, le projet paysage est un projet qui à la date d'aujourd'hui s'est déployé déjà sur 4 territoires en Bretagne et en Normandie. Je viens de terminer la dernière résidence au Mont-Saint-Michel et qui a du coup l'idée, c'est de réaliser des œuvres monumentales, des tapisseries témoignages, c'est comme ça que je les appelle, qui font 4 mètres par 2,50 mètres et qui sont en fait qui représentent une vue satellite, une vue du ciel d'un territoire. Et je vais réaliser cette tapisserie de ce territoire-là sur le site de représentation. C'est-à-dire que je suis vraiment en local. Et tout ça aussi avec des matériaux à chaque fois locaux, donc qui sont en fait sur la cartographie qui est représentée en fait. Donc à chaque fois le territoire est représenté, mais en même temps, même sans cette esthétique et ce graphisme de la vue satellite, en tant que tel, les matériaux de l'œuvre d'art, de la tapisserie, représente le territoire. C'est-à-dire que là, la dernière au Mont-Saint-Michel va être totalement différente en termes de fibres utilisées, de plantes tinctorielles utilisées, tous les matériaux locaux que je vais pouvoir utiliser, contrairement à la prochaine, par exemple, que je vais pouvoir faire dans le sud de la France, ou des choses comme ça va être vraiment les matériaux vont complètement varier, les textures, et ça va personnaliser, personnifier aussi les spécificités des territoires. Donc cette tapisserie représente, effectivement, comme vous l'avez dit Pauline, l'idée c'est de revenir dans 30 ans à chaque fois, pour chacune des tapisseries que j'ai pu réaliser, et d'en réaliser une deuxième, de faire en fait une reproduction pour avoir un diptyque avant-après qui mette en avant l'évolution justement du territoire, et qui puisse justement témoigner de cette évolution. Donc ce projet est vraiment, comme vous l'avez compris, basé sur le thème de la localité en termes des matériaux, des vues, de la réalisation sur site, mais aussi, en fait, il ne pourrait pas fonctionner, et c'est vraiment ça la forte valeur ajoutée, en tout cas pour moi, c'est ça que j'aime dans ce projet-ci, c'est que c'est un projet qui est participatif. C'est-à-dire que c'est un projet qui va impliquer directement sur la durée entière de résidence, qui est à peu près de 3 mois, on a à peu près 1200 heures de travail à 2000 heures de travail par tapisserie, ce qui est assez énorme. Là, en fait, j'implique une équipe de 20 à 30 habitants sur chacune des réalisations. qui viennent apprendre à mes côtés les techniques de touffetage de la teinture végétale et qui viennent réaliser à mes côtés en fait l'œuvre de leur territoire. En fait, ils sont co-créatifs. Ils sont dans la peau d'un artiste, ils viennent apprendre de moi. Moi, j'apprends d'eux aussi énormément. Et il y a vraiment, ça fait comme s'il y a des liens qui se tissent. Ça fait comme une petite famille en fait à la fin vraiment. Et on est amené comme ça au fur et à mesure. Ils viennent une à deux demi-journées par semaine sur les 3 mois de résidence à peu près. Et du coup, on vient créer l'œuvre et on a vraiment aussi cette durée de création qui est très très longue. Si on se rend compte justement de la réalisation là dans un monde où tout va de plus en plus vite, là le temps est très très long. Même si c'est pas de la tapisserie haute lisse ou basse lisse, où là ça serait encore plus long. Là, on est vraiment sur une technique de touffage. Et d'ailleurs, cette technique va me permettre aussi de représenter une autre donnée, une autre dimension du paysage, qui est la topographie. C'est une œuvre aussi qui est en relief, donc qui est de grande dimension, mais qui en plus épouse les reliefs, la topographie du territoire présenté.
Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez, enfin du coup on est repassé au vous, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer les différents, pas ateliers, pas étapes, mais tu vois comment ça s'enchaîne, comment tu démarres, est-ce que tu t'avais dit une vue satellite, est-ce que ça démarre par là? J'ai vu dans ta vidéo que je mettrai en lien de l'épisode qui est génial, ça explique vraiment super bien le projet, elle est vraiment inspirante cette vidéo, franchement, hyper bien réussie. Est-ce que tu peux l'expliquer à l'audio? Parce qu'ils auront la vidéo du coup, mais est-ce que tu peux expliquer les différentes étapes, les différentes personnes qui interviennent pour aboutir à ça et la technique de tuffetage que tu m'as enseignée parce que du coup, je ne connaissais pas du tout. Donc, je pense que ça va intéresser les auditeurs.
Alors en fait, au niveau des nombres, alors des étapes en tant que telles, il y en a plus de 500 sur un projet de telle d'une ampleur comme celle-ci. Je parle de grosses étapes, hein, je parle pas des petites étapes, sinon là on se parlerait en milliers. Mais en grandes étapes, il y a d'abord en fait une identification d'un territoire à risque, un territoire en évolution. Donc là, sur les premiers paysages que j'ai pu réaliser, les premières tapisseries, on est vraiment sur les territoires qui sont littoraux, donc avec la montée des eaux, le dérèglement écologique, aussi l'assèchement de zones humides ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'est de le déployer aussi dans le futur sur d'autres territoires en évolution qui peuvent être par exemple aussi de venir identifier des métropoles et de comprendre, de retrouver des cartes en fait d'il y a 50 ans. Et en fait, d'en refaire une aujourd'hui et de pouvoir avoir comme ça toujours cette notion d'évolution des territoires avec ce format de vue satellite assez dézoomé. Donc vraiment montrer cette évolution toujours en partie. Mais j'ai un peu dérivé. Donc au niveau des étapes, on est vraiment sur d'abord une identification de territoire et une identification de porteur de projet, donc c'est-à-dire de partenaire qui va venir m'aider à trouver un atelier en fait, une salle une salle de résidence sur place pour pouvoir travailler, et aussi qui va pouvoir m'aider à construire, co-construire ce budget avec les différents partenaires financeurs qui peuvent être la DRAC, qui peuvent être le ministère de la Culture, qui peuvent être pas mal de choses, du mécénat, etc. Donc il y a toute cette étape préparative qui est un peu moins fun mais qui est obligatoire. Ensuite, j'ai un mois à peu près de préparation avant de démarrer la résidence. Donc ça va être donc identifier, choisir, sélectionner la vue satellite, de la retravailler parce que du coup on travaille par touffetage et par teinture végétale, donc des techniques qui me permettent de réaliser des aplats de couleurs en fait. Mais on n'est pas comme sur une image numérique en pixel par pixel, on est vraiment en aplats comme de la peinture. Donc il faut simplifier un petit peu les couleurs, justement, enfin les formes, les aplats. Donc on a quand même un niveau de détail qui est assez précis, hein. On peut travailler sur un niveau de détail de un demi centimètre carré à peu près, mais il faut simplifier aussi donc ces aplats, ces formes réalisées par touffetage, mais aussi le nombre de couleurs, parce qu'on peut pas avoir on pourrait, mais ça demanderait un temps de malade d'avoir 250 couleurs pour représenter la tapisserie. Là, on est à peu près entre une quinzaine et une trentaine de nuances colorées qui sont réalisées du coup en teinture végétale locale. Donc pour les teintures, en fait, je m'appuie sur des fermes teintoriales locales. Donc là, les quatre premières tapisseries sont plutôt côté Bretagne-Normandie. Donc j'ai surtout travaillé avec Stéphanie Garret, donc de l'Ivaden, qui m'a fourni énormément du coup de plantes tinctoriales, donc de réséda, de garance, de persicaire indigo, etc. Pour aider toutes les couleurs. Et je me suis appuyé aussi sur l'expertise de Aurélia Wolf de l'atelier Wall à Paris, en partenariat avec le Mobilier National. Donc le Mobilier National qui nous a prêté en fait les ateliers royaux en fait de la manufacture pour réaliser les teintures, donc de grandes quantités de laine en avec des, enfin, avec tous les l'outillage, les cuves, etc. adaptés pour des grandes quantités comme celle-ci. Et donc du coup, vraiment, il y a cette expertise de l'atelier Wall qui est très très importante pour l'échantillonnage et ensuite la sélection par rapport aux nuanciers que j'ai pu ressortir justement de la vue satellite. Et ensuite, je travaille aussi avec des petits fournisseurs locaux, donc là qui vont différer au niveau des fibres qui sont touffées, donc qui réalisent la tapisserie. On est sur pour l'instant sur une toile de lin bretonne ou normande, suivant la localité du projet. On est sur de la laine, du coup, pour les trois premières qui étaient faites en Bretagne, des Monts d'Arrée, donc avec l'entreprise Boucle Laine. Et pour celle-ci, là, au Mont-Saint-Michel, cette nouvelle tapisserie témoignage, j'ai travaillé encore plus local. Donc là, on est sur des laines des moutons des prés salés, donc autour du Mont-Saint-Michel, carrément. Et c'est l'entreprise Laine à l'Ouest qui m'a fourni justement les laines. Donc je suis vraiment en train d'identifier et aussi de valoriser les savoir-faire locaux. Et les petits fournisseurs qui font du bon travail et qu'il faut justement mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment sur la partie préparation. On a fait la vue satellite, on a fait la simplification, l'éteinture en fait des 20 à 30 kilos de laine. Donc ce qui est assez énorme en termes de volume. En tout cas, la laine, c'est très léger, teinte en une trentaine de couleurs. Et ensuite, du coup, démarre la résidence. Donc il y a un appel en fait à participation locale, donc via les journaux locaux, etc., qui est fait par le partenaire, ce qui me permet du coup de faire une première un premier échange avec toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont au début, il y a à peu près 40-50 personnes qui sont intéressées lors de la première réunion. On fait une initiation au touffetage, à la teinture végétale, je leur explique le projet, comment ça va fonctionner, etc. Et après, sur les 3 mois du coup de résidence, ça déroule sur plein d'étapes différentes. Donc ils vont se former au touffetage, donc moi je vais venir les aider. Ils ont à peu près une dizaine d'heures de formation au touffetage avant d'être vraiment validés, de pouvoir travailler sur la grande toile. Et il y a aussi toutes les étapes de bobinage, on va réaliser aussi un atelier teinture, comme la teinture des laines a été faite en amont par Wall. Là, l'idée, c'est quand même de pouvoir leur passer un peu de savoir-faire au niveau de la teinture végétale. Donc, on fait une journée banalisée que sur de la teinture végétale où je vais identifier en fait des plantes tinctoriales autour du site de résidence et on va venir faire la cueillette. On va ensuite expérimenter du coup les teintes. Ils vont repartir avec un carnet d'échantillonnage, des différentes teintures et on va pouvoir expérimenter des pratiques d'ennoblissement textile comme le shibori ou le tatakizome, des choses comme ça. Donc il y a cette partie-là aussi. Et puis on va avancer ensuite, plus ils vont être validés, plus on va travailler justement sur la toile par le touffetage. Donc et puis il y a énormément d'étapes au final, même de finition, de préparation sur les 3 mois de résidence jusqu'à la fin en fait, où là on a vraiment une étape de finition et d'encollage où on va venir vraiment réaliser les dernières petites finitions de la tapisserie. Donc là je vous en avais pas donné énormément parce qu'il y en avait beaucoup et que j'ai pas tout en tête maintenant, mais en gros sur les 3 mois de résidence on s'ennuie pas du tout et c'est très varié.
Ouais, alors du coup tu disais la teinture réalisée par Hall à la manufacture des Gobelins, Livaden. Donc Hall, c'est les épisodes 17 et 18, je le dis pour les auditeurs qui ont envie d'aller écouter. Livaden, tu en as parlé, Stéphanie, son super travail d'agricultrice, c'est l'épisode 34, j'allais me tromper. Tu as parlé du tuftage ou du tufting, je ne sais jamais comment on dit. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs passionnés de laine, de tricot et d'emploi de la laine. Et moi, franchement, tu m'as appris plein de trucs avec les pistolets, les trucs, les machins. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit zoom sur cette technique, les différentes applications? Comme tu dis, il y a 10 heures de formation, donc c'est pas non plus anodin. Est-ce que tu peux nous raconter?
Alors le touffetage, premièrement, avant d'expliquer la technique réellement, je l'ai utilisé en fait pour plusieurs choses. Premièrement, pour un projet participatif, c'est une pratique qui est assez ludique, qui est beaucoup moins longue que de la hautisse ou de la bassiste pour faire de la tapisserie, donc en termes de réalisation, qui est pas très très complexe à apprendre, qui demande quand même pas mal d'heures de travail pour pas se tromper, surtout quand on travaille sur les 4 mètres par 2,50 mètres de la toile finale où il faut pas se tromper, et aussi qui permet aussi de représenter du coup des choses en volume, ce que je pourrais pas faire en basse lisse ou en haute lisse, donc avoir la topographie du territoire qui est représentée. Donc en fait le touffetage, on travaille sur un cadre vertical, donc là du coup le cadre il fait 4,50 mètres de hauteur, il fait 4 mètres de hauteur par 4,50 mètres de largeur. Et on vient tendre, du coup, sur tout le cadre, il y a un tour de clou, et on vient tendre une toile de lin dessus. Habituellement, c'est pas du lin. Le textile qui est utilisé spécialement pour le touffetage, c'est un mélange de coton polyester. Donc, premièrement, c'est pas 100% naturel comme ce que je voulais. Et deuxièmement, c'était pas local. Donc là, j'ai vraiment innové en utilisant une toile de lin, ce que j'avais jamais vu être fait. Enfin, j'avais jamais vu que ça avait été fait. Donc, c'était vraiment un crash test, en fait, pour voir si ça fonctionnait ou pas. C'est plus compliqué et moins adapté. Ça se déchire un peu plus, mais on y arrive quand même quand on a vraiment la technique. Donc, on travaille en vertical. Et en fait, c'est un des pistolets de touffetage. C'est une pratique qui... Donc, a été inventé en Asie, qui est inspiré de la technique du crochet ou d'autres techniques comme celle-ci qu'on pouvait faire à la main, mais du coup, qui est simplifié, plus rapide, qui reste artisanal, hein, ça reste quand même un outil un peu qui ressemble un peu à une perceuse, mais qui est effectivement électrique ou électrique et pneumatique, donc j'en reviens un peu après. Mais en tout cas, c'est une technique qui a une cinquantaine d'années et qui s'est démocratisée pour réaliser en tout cas les tapis, enfin des tapis ou de la tapisserie aussi, mais pas vraiment, c'est vraiment plus pour du tapis. Donc, cette technique permet en fait de piquer à travers une toile de lin qui est du coup tendue sur le cadre. Donc, on a une aiguille qui vient percer, qui vient ensuite avancer vers le haut, repercer, et tout cela en fait avec le brin de laine qui va venir en fait se ficher dans la toile et avancer comme ça. Donc on a deux possibilités de réalisation. Donc on a soit on peut faire le mode loop, le mode boucle, qui permet vraiment de faire des boucles de l'autre côté et d'avancer, de remplir en fait des formes comme ça, ou alors le mode cut, donc le mode toupé, où on vient du coup avoir comme des U en fait. Ça traverse la toile, ça avance de un pas, ça replante, ça remet du coup un brin de laine, ça coupe. Et ça avance comme ça, ça fait des U. Donc, ce qui permet aussi de régler les différentes hauteurs. Donc, sur les pistolets électriques, on a peu de hauteur, de réglage de hauteur. On est à peu près sur, de 8 mm à 16 mm de hauteur de tout. Par contre, sur des pistolets beaucoup plus professionnels, beaucoup plus chers, beaucoup plus complexes à utiliser aussi. On a une variété de hauteur de touffe qui est beaucoup plus large. Donc on peut aller de à peu près 2 cm à 7 cm de hauteur. Du coup, de pouvoir réaliser. Donc toutes les hauteurs topographiques sont faites avec un pistolet pneumatique. Il y a besoin du coup aussi d'un compresseur d'air. Il y a une arrivée électrique, mais une arrivée d'air aussi en plus.
D'accord, ok, ouais, c'était ça, c'était le pistolet pneumatique pour faire vraiment les reliefs importants, je me souviens que tu en avais parlé. Tu m'avais parlé aussi qu'à la fin, donc quand tout était mis en place, il y avait, alors si j'ai bien en mémoire, c'était un arasage, tu recoupais pour que ce soit net, propre, et cette technique-là aussi, elle doit reprendre du temps vu que tu es sur une grande surface, c'est pour rendre net, ça c'est...
Oui, c'est pour en fait bien finir, c'est-à-dire qu'on vient pas retravailler la topographie qui a déjà été faite en fait suivant le réglage de hauteur de touffe. D'ailleurs, tout ça, ça a été fait, j'ai oublié de le préciser dans les étapes, mais entre 100 et 150 heures de traçage en fait, on vient projeter sur la toile qui est sur le cadre, nuance par nuance, donc les 20 nuances différentes, et on vient du coup les tracer au Posca avec des Posca à chaque fois différents, des abréviations différentes pour pas se tromper dans toute l'équipe des 30 habitants qui viennent ponctuellement. Donc il y a toute cette étape de traçage qui est aussi très intéressante et qui est assez importante dans le projet. Et du coup, j'ai perdu où j'en étais.
Mais je te disais de l'arasage, de venir en fait enlever les petits, pas les petites imperfections, mais les petits fils en trop ou un peu qui dépassent, je suppose.
C'est ça, en fait, vers la fin de la résidence, vers la fin de la tapisserie, on a toute une étape d'arasage où on vient, alors retirer quelques millimètres, ce qui permet en fait d'éviter d'avoir un aspect pelucheux, mais vraiment un aspect net. Donc ça a vraiment une autre qualité visuelle là au niveau au niveau du graphisme et de la texture que ça va donner sur l'œuvre entière. Donc on a toute cette étape là et on a une étape aussi d'encollage parce que du coup si vous rappelez bien le touffetage on vient simplement passer une boucle et avancer en fait dans la toile mais il n'y a pas de nœud. Donc, c'est-à-dire que si on vient tirer sur un des deux fils qui fait le U qui traverse la toile, le fil s'enlève. Donc, on a en fait un encollage. Donc, on vient retirer la toile, la déposer au sol, refaire encore des positions au sol. Et puis ensuite, on vient encoller au latex naturel, du coup, sur tout l'arrière et remettre une toile de lin pour bien finir, justement, éviter que les fibres bougent. Voilà.
D'accord. Et alors, j'avais une question. Donc, du coup, tes œuvres, ensuite, elles sont exposées toujours dans des lieux assez grands, vu que c'est des projets, enfin, comme tu dis, des œuvres magistrales. J'ai une question, c'est une fois que ton œuvre est faite, si ta volonté, c'est de revenir dans 30 ans, tu as utilisé du lin, des laines, de la coloration végétale. Alors, je ne remets pas en doute les qualités de teinture d'Aurélia Wolf, mais tu acceptes que ton œuvre va évoluer aussi avec le temps, parce que il y a forcément en 30 ans, selon là où elles vont être conservées, il va quand même y avoir un peu de mouvement. Donc, ça, tu l'acceptes dans ton projet de te dire, voilà, ça peut bouger. Mais quand même, rendez-vous dans 30 ans pour avoir, comme tu dis, une notion de l'évolution et du territoire, mais aussi d'une œuvre comme ça.
Bah, c'est ce qui fait aussi, je trouve, la part de beauté en fait de ce projet, de la tapisserie et de ce projet-ci qui est en 100% naturel et quasiment 100% local. C'est d'avoir aussi l'œuvre qui va évoluer effectivement, comme le territoire va évoluer en même temps. Donc, on a vraiment ce penchant aussi. Après, faut pas effectivement trop qu'elle évolue parce qu'on a quand même cette idée de diptyque dans 30 ans. Il faut quand même qu'on puisse avoir une comparaison et pouvoir les mettre en dialogue l'une avec l'autre. Donc là, il faut faire vraiment attention, en fait, surtout aux UV. Donc, ne pas exposer directement au soleil, à la lumière solaire, parce que du coup, ça vient casser les couleurs végétales. Et puis, effectivement, au niveau de la conservation, il y a pas mal de précautions de conservation au niveau de la gestion de l'humidité, etc. Par exemple, mais effectivement, ces tapisseries prennent tout leur sens quand elles sont présentées sur le territoire qu'elles représentent. Parce que c'est là justement qu'elles vont avoir l'intérêt.
D'accord. Et alors, du coup, là aujourd'hui, est-ce que ces œuvres, enfin, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent aller voir les œuvres en vrai pour les gens, donc notamment de la Bretagne, parce qu'essentiellement là pour le moment, ça se passe en Bretagne.
Alors. Là, la tapisserie de la baie du Mont-Saint-Michel vient d'être finie. Là, je suis en train de travailler sur l'exposition. Il y aura une exposition, du coup, de cette toute nouvelle tapisserie au centre d'information touristique. Donc, juste devant le Mont-Saint-Michel, vraiment au départ des navettes qui vont au Mont-Saint-Michel, juste après les parkings. Donc, dans un grand bâtiment en bois. Ce sera du 5 février jusqu'au 12 mai de cette année. Donc il y aura cette première exposition à ce moment-là qui va du coup révéler aussi cette tapisserie qui a jamais été présentée pour l'instant, qui vient d'être finie. Il y aura une exposition aussi de la mi-juin à mi-septembre à l'abbaye de Beauport, là qui va une exposition qui va être un peu plus grande parce que du coup elle va présenter trois des tapisseries en même temps, donc des tapisseries sur les quatre de la collection entière. Donc sur tout l'été 2024 à l'abbaye de Beauport à Paimpol, donc Nord-Bretagne. On va avoir une autre exposition aussi à Fresnes, à côté de Paris, de septembre à décembre de cette année. Et puis là, je suis en train de voir justement pour l'exposition dans les prochains mois à Paris aussi, donc avec qui serait du côté de Montreuil normalement, mais c'est encore en calage. Donc voilà, elles seront présentées un peu partout. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas en fait tout simplement à jeter un coup d'œil sur. Alors là où je poste le plus justement d'informations concernant les expositions, les présentations, ça va être soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou alors sur mon site internet.
Voilà. Que je remettrai dans le descriptif, comme ça les gens pourront suivre, comme tu dis, les dates et avoir les bonnes infos. Super, je voulais te demander maintenant des questions un peu plus, comment on va dire, sur la suite. Ma question, c'est est-ce que demain tu te vois retravailler avec la couleur végétale, pas forcément sur de la laine? On sait maintenant, et même on en parle beaucoup dans le podcast, qu'on peut vraiment le faire sur beaucoup de supports. Est-ce que toi, ça te brancherait en tant qu'artiste de continuer cette aventure en gros de la couleur végétale, mais sur d'autres supports pour la suite? Ou est-ce que c'est exclusivement laine et ce type de projet paysage?
Alors, ce sera, mais de toute façon, c'est dans la pratique et aussi dans la technique exclusivement matériaux naturels. Mais effectivement, c'est intéressant parce que cette année, je vais réaliser énormément d'ateliers scolaires avec des collèges, des lycées. Et je vais en fait faire une variante de ce projet-ci, donc avec les mêmes enjeux, les mêmes questionnements, en fait, donc de vue satellite représenté en participatif, etc., sur le territoire, mais en utilisant donc pas la technique de la tapisserie, mais la technique du land art, où je vais venir récolter, donc là ce sera à Belle-Île-en-Mer, par exemple, avec un collège de Belle-Île, récolter des matériaux locaux, donc dans la forêt, des branchages, des pierres, des galets, des chutes aussi, possiblement conchylicoles ou des choses comme ça, et de venir, à partir de ces matériaux, du coup, faire un archivage de tous ces éléments au niveau des coloris, des formes, et de pouvoir ensuite les teindre du coup, avec des teintures végétales de la région, pour créer du coup une œuvre de land art, donc une sorte de puzzle géant qu'on va faire, donc tout ça avec les collégiens, de 6 mètres normalement par 3 mètres 50, et qui va représenter du coup la Belle-Île, et qui va venir aussi être amené à, comme ça va être présenté en extérieur, et c'est aussi l'essence du land art, à être une œuvre éphémère, une œuvre qui va évoluer au fur et à mesure des semaines, qui va venir se dégrader, où il y a l'herbe qui va pousser dessus, où il y a justement toutes les couleurs qui vont venir s'estomper petit à petit. Ça va justement représenter aussi cette fragilité du territoire et ces enjeux, en fait, qu'ils soient écologiques ou sociaux, locaux.
D'accord, ok. Et tu avais parlé la fois dernière aussi, et c'est toi qui m'avais appris le terme, alors attention à la prononciation des mots japonais, le Susujiban.
Suminagashi.
Peut-être, tu sais,
Ah,
c'était l'histoire
Susujiban.
des... Ouais, les encres qui flottent et tu t'étais dit,
Ah
tiens, j'aimerais continuer à explorer. Et en fait, pareil, tu m'avais appris ce terme. Alors, est-ce que tu peux le redire du coup pour que
Alors ça, c'est
les gens soient...
le Suminagashi, en fait, en japonais, ça veut dire encre qui flotte. Et c'est là, c'est une des premières techniques d'impression au monde, il me semble. Donc, en fait,
Ah ouais?
par contre, c'est impression unique, c'est-à-dire qu'on vient sur un volume d'eau poser une encre assez particulière, une encre japonaise qui vient flotter à la surface, et on vient travailler en fait le graphisme comme ça, et ensuite poser une feuille de papier. Donc, tout simplement, l'encre va venir se déposer sur le papier et la faire sécher. Donc, on a vraiment en fait un comme si on pouvait travailler dans un milieu aqueux et puis jouer justement sur les textures, les formes, souffler dessus, etc. et ensuite pouvoir imprimer.
Ouais, et alors là, moi, la question qu'on s'était posée, c'était comment faire parce que bah, les encres sont voilà se mélangent à l'eau, etc. Donc ça m'avait intrigué ce que tu voulais creuser. Donc voilà, je suis contente que tu l'aies dit, Suminagashi. Est-ce que tu as d'autres idées d'application de la couleur végétale? Parce qu'en fait, on a vu que ça pouvait être sur le bois, sur les os, les ongles, les cheveux. On a beaucoup d'acteurs de la coloration capillaire sur le podcast. En fait, comme tu dis, tu l'as bien résumé, c'est des matériaux essentiellement naturels. Donc en fait, le champ, il est quand même assez large. Et pour un artiste, et je pense que tu es vraiment le premier purement artiste qu'on a sur le podcast, donc je suis vraiment curieuse de voir un peu comment toi t'appréhendes cette couleur végétale comme pas outil, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas le mot, mais comme manière d'appliquer la couleur et de s'en servir pour tes œuvres.
Alors au
Est-ce que
niveau
tu
du
as... Ouais,
procédé,
vas-y.
moi en fait je vais pas vraiment avoir de réponse tout de suite parce que je suis vraiment dans une démarche qui est empirique et qui est dans l'expérimental. Donc c'est-à-dire que je vais effectivement, par exemple, il y a cette idée de Suminagashi d'essayer de rendre ces teintures végétales, je sais pas si c'est réalisable ou pas, hein, c'est vraiment de la recherche, c'est pour ça qu'on en parle, de les rendre par exemple insolubles à l'eau et qu'elles puissent flotter d'une manière ou d'une autre et pouvoir justement pratiquer cette technique du Suminagashi avec de la teinture végétale ou alors plein d'autres choses. En fait, ça va vraiment dépendre, comme il y a cette notion de territoire, en fait, de l'inspiration que je vais avoir à un instant T. Et en me disant, ah bah tiens, cette technique et la teinture végétale pourrait être super pour ça. Donc là, c'est vraiment cette démarche artistique, moi, que je mène. Donc je vais pas avoir de réponse tout de suite comme ça, à part effectivement ce projet de Land Art que je vais mener l'année prochaine, où le projet est déjà réfléchi. Mais effectivement, c'est une technique, moi, que j'affectionne particulièrement, parce qu'il y a vraiment assez empirique et en même temps cet aspect chimie, la chimie végétale aussi, qui est très intéressant, moi que j'aime beaucoup, où on vient essayer de comprendre pourquoi ça réagit comme ça, parce que tellement, enfin voilà, il y a tellement de facteurs que c'est pas toujours facile de saisir les différentes réactions qui n'étaient pas prévues, mais en tout cas c'est une technique qui est naturelle, qui est écologique, contrairement aux autres teintures justement chimiques, ou alors des encres par exemple pour le shibori ou des choses comme ça. Donc moi c'est une technique que je vais continuer à utiliser dans les prochaines années.
Top. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes inspirations? Ça peut être des livres qui t'ont plu, des comptes Instagram qui t'inspirent, des artistes autres qui t'inspirent. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes sources d'inspiration en ce moment?
Alors en ce moment, je réfléchis, hein, parce que c'est toujours quand on pose la question que c'est le plus difficile d'y répondre. Au niveau de teinture végétale, rapidement, je pense qu'il y a le livre Encre de plantes, moi que j'aime beaucoup.
D'Elisabeth Dumont.
Exactement, qui m'inspire pas mal. Il y a, alors au niveau pas teinture végétale, parce que du coup,
oui, non, mais...
je vais être limité en teinture végétale aussi, vu que c'est une technique sur des dizaines de techniques que j'utilise dans mon travail. Ça va être par exemple des designers chercheurs qui vont avoir une approche un peu similaire à la mienne. Par exemple, Samy Rio travaille essentiellement le bambou, la notion de localité, la notion aussi d'écologie. Il y a effectivement un peu plus connu, mais là on est vraiment sur la pratique plutôt, on va dire technologique, scientifique. Mathieu Lehaner, qui est d'ailleurs qui a été lauréat designer de l'année. Récemment, par exemple Pierre Charrier aussi, qui a une pratique très intéressante. Donc là, c'est vraiment plus, par contre, des designers artistes, un peu comme moi. On s'éloigne un peu de la teinture végétale, mais effectivement, j'ai pas mal d'inspiration et je continue à avoir une sorte de veille culturelle sur ce qui se passe autour pour pouvoir ensuite créer, parce qu'on ne s'en tire jamais de rien, en fait. On crée jamais de rien, on crée toujours de quelque chose d'inspiration en venant modeler, en transformant, en prenant une bribe de quelque chose qui existe déjà, en regardant la nature, enfin voilà. Donc c'est toujours très important d'avoir cette attention à ce qui nous entoure. Là, par exemple, particulièrement au secteur artistique et créatif.
Est-ce que tu peux, pour revenir aux plantes tinctoriales, tu m'avais cité la fois dernière toutes les plantes que vous aviez choisies en cueillette locale, etc. Donc, tu avais parlé du réséda, coréopsis, châtaignier, de la garance, du noyer, de la noix de galle, essentiellement des plantes grand-teint, donc qui sont résistantes aux UV, résistantes au lavage et vraiment des grand-teint. Est-ce que parmi celles-là, il y en a une pour laquelle tu as eu un coup de cœur parce qu'on a quand même... C'est fou, mais peu importe qui essaye la teinture végétale, on a toujours nos chouchous dans soit la plante, soit la couleur qu'elle donne. Il y a quelque chose qui nous plaît. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelle est ta plante tinctoriale de prédilection, celle qui t'a interpellée?
Alors, c'est très dur à répondre à cette question. En fait, ce qui est très dur surtout, c'est que en fait, quels que soient les coloris qu'on va obtenir, quels que soient les mélanges qu'on va faire, la gamme colorée fonctionne toujours en végétal. Parce qu'on est sur des nuances de pastel, des nuances naturelles qui vont pas être flashy et qui vont toujours s'accorder. C'est assez impressionnant. Sur toutes les tapisseries que j'ai réalisées jusqu'ici, tous les carnets d'échantillonnage de nuanciers que j'ai pu faire, à chaque fois ça s'accordait. C'est assez fascinant. Je saurais pas trop quoi répondre. J'aime beaucoup les nuances de garance. Bon, bien sûr, après, il y a le classique bleu de la persicaire indigo, la redoué des teinturiers, qui est toujours très intéressant et qui fonctionne totalement différemment des autres procédés de teinture, parce que là, du coup, on travaille en oxydation à l'air libre, donc, comme la cuve, justement, quand on vient monter la cuve en trempant les différents exfoliants, c'est suivant le nombre de trempes et d'oxydation que ça va venir faire bleuir de plus en plus foncé. Donc il y a cette magie là aussi de l'indigo qui est toujours aussi fascinante, hein, c'est pour ça qu'il y a autant d'adeptes aussi. je pense que je m'arrêterai à ça. Je pense que il y a enfin, sans y avoir réfléchi plus en amont, je pense que c'est les deux qui me viennent à l'esprit.
Ok, très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, un sujet sur lequel je ne t'ai pas lancé une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais aborder avant qu'on passe à ton passage de micro ?
Là, je sais pas trop. Je vais sûrement sortir un ouvrage justement sur mon travail qui sera édité par Snap Collective prochainement dans les prochains mois. Il va justement parler de toute cette approche de designer voyageur, cet empiriste de recherche des matériaux, cet caractère de la localité et de l'écologie dans les projets que je mène, et il y a un gros focus sur le projet paysage. Et puis sinon, je vous invite surtout à passer aux expositions prochaines qui vont donc ces expositions publiques. En tout cas, au Mont-Saint-Michel, c'est une entrée gratuite. À l'abbaye de Beauport, il me semble qu'il y a que l'entrée doit être à 4€, quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à passer voir ça et puis au plaisir de vous croiser.
Oh, top. Alors, dans le podcast, on essaye de faire une chaîne pour montrer que, tu vois, vraiment, la couleur végétale, c'est une chaîne de valeur. Il y a des acteurs qui tournent autour, les fibres naturelles, les artistes, le textile, la cosmétique. Enfin, bref, c'est une chaîne de valeur. Du coup, c'est chaque invité qui donne un peu un passage de micro à quelqu'un qui trouverait intéressant pour compléter notre exploration de la couleur végétale ou de la partie artistique, etc. Est-ce que toi, tu penses à quelqu'un que tu aimerais interviewer pour avoir son échange, son œil, son nouveau regard?
Alors, le problème sur la teinture végétale, c'est que tous les acteurs avec qui j'ai pu travailler et que j'ai en tête, tu les as déjà interviewés.
Ouais,
que ce soit Michel Garcia, Stéphanie Garé avec Livaden, Aurélia avec Wall. J'ai pas trop plus d'idées que ça. Moi, c'est vraiment ces acteurs-là avec qui j'ai pu travailler et vraiment échanger qui étaient intéressants.
D'accord.
Donc voilà.
D'accord, ok. Bon, je rappellerai les épisodes donc des personnes que tu as citées, parce que comme tu dis, on les a eus et les épisodes sont hyper intéressants à aller écouter. Je remettrai pour les auditeurs les lieux d'exposition, ton site internet, ton compte Instagram, pour que les gens puissent suivre ton aventure. Quand ton livre sort, n'hésite pas à me faire un petit clin d'œil. On essaiera de relayer l'info. En tout cas, merci beaucoup, parce que comme je te disais, t'es le premier artiste, chercheur, engagé, qui mène plein de choses, plein de projets collaboratifs. Donc, je voulais te remercier pour ça. Je suis désolée qu'on ait fait un premier enregistrement qui a vraiment l'audio. Franchement, on avait l'impression qu'on était tous les deux au fond de l'eau. Donc, c'était important de réenregistrer. Donc, merci à toi, Dorian, et à la prochaine. En tout cas, merci beaucoup.
Merci, Pauline. À la prochaine.
Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert. ARTECOVERT pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.